Merci pour ces informations, Alexandra Duboucheron. Allez, en route, mauvaise troupe de par Jupiter.
La semaine dernière, dans le bureau de Par Jupiter.
C'est moi qui ai eu l'idée.
Non, c'est pas vrai, c'est moi qui t'en ai parlé.
Mais c'est pas possible, Virginie Fira. Déjà, je la connais.
Et alors,
salut les amis.
Salut Charlie. J'ai quelqu'un pour lever les best-of.
C'est moi qui ai pensé à quelqu'un.
C'est Virginie Fira. C'est moi qui l'ai dit.
Ouais. Non, c'est moi.
Ouais. Je l'adore, elle est super.
Moi, je la trouve incroyable.
Mais non, elle est super actrice.
Elle nous l'avait prouvé dans le sketch.
Oui,
d'accord. Mais est-ce que ça fera un bon florilège?
C'est sûr, je l'ai choisi pour ça. Elle fait un accent liégeois formidable dans le sketch.
D'accord. Pourquoi pas? Alors, vous avez pensé à un binôme ou...
À quoi? Un binôme?
Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, les florilèges. Ah. Déjà depuis lundi. Hein.
Oui.
On met deux invités dans un même
épisode. Oui, mais justement, mais comme moi j'avais pensé à Virginie Fira, ça c'est moi qui avais pensé. C'est Guillaume qui s'occupait du binôme. Oui, mais malheureusement, je crois qu'il ne l'a pas fait.
Si je l'ai fait, j'ai la bonne personne qui est justement une personne très complémentaire.
Ah, très bien, oui. Par exemple, un réalisateur.
Oui.
Ce serait logique avec une actrice.
C'est exactement ça, Charline.
Quelqu'un de plus âgé, une autre génération pour équilibrer.
Pour équilibrer, voilà. Alors, tu brûles, Charline, tu brûles, tu penses à qui?
Jean-Pierre Mocky.
Exactement, Jean-Pierre Mocky, j'avais pensé.
Chapeau Guillaume, bravo.
On est sur la même...
Je te félicite. Ouais. Non, je pensais pas que t'avais autant bossé.
C'est bien
que tu soutiennes Alex, qui est pas très très doué pour faire les golfs.
Oui, c'est vrai.
Allez, on s'y met.
Allez.
C'est moi qui avais trouvé Virginie Fira.
Bonjour la France Inter, vous écoutez les florilèges d'automne, cet espace où la blague débite en petits cubes la citrouille de l'actualité.
C'est brillant.
Toute cette semaine, nous partons à la recherche des grands crus de cette émission et au menu de cet épisode millésimé, on va réécouter Jean-Pierre Mocky et Virginie Efira. Nous avons reçu Jean-Pierre Mocky en 2015, une émission garantie sans passe sanitaire et sans Jordan Bardella. Avec le réalisateur, on avait évoqué l'entrée au Panthéon de quatre résistants et puis on avait parlé du Festival de Cannes. C'était l'année où Dipane de Jacques Audiard avait reçu la Palme d'Or. Et Mocky, il te défonce le Festival de Cannes. J'en dis pas plus, vous n'avez qu'à écouter.
Passons pause.
On poursuivra l'émission en compagnie de Virginie Efira en 2017. Année électorale, on se posait cette question. Pourquoi détestons-nous les politiques? Et l'un des thèmes de la campagne, c'était les perturbateurs endocriniens. Autre sujet que nous avions abordé avec Virginie Efira. Avant de l'embarquer dans un sketch mémorable, elle l'a transformé en pépite, moi j'en ris encore. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charlie de Vadounaker.
Vous avez choisi un sujet vieilli en fût de chêne pour Guillaume, mais aussi des chroniques d'aujourd'hui.
Exactement. Guillaume Meurice nous parle fusion des régions et s'était intéressé à l'époque à cette fusion entre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Voilà que de problèmes franco-français qu'il va évidemment ne pas résoudre comme à chaque fois. Et puis j'ai les chroniques actuelles, le meilleur, la crème du Juliette Arnault qui nous parle de la petite sirène d'Andersen, du Rukyata Ouédraogo qui nous parle de superstition. Et comme toute cette semaine, on termine avec un Frédéric Fromet qui nous parle des vaches qui pètent. Je ne sais pas quoi vous dire de plus.
Allez, venez, on va se marrer et se faire engueuler par Jean-Pierre Mocky.
S'il vous plaît.
Il était donc venu en 2015 nous parler de son livre intitulé « Je vais encore me faire des amis ».
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek,
Par Jupiter.
Vous adoreriez être Tarantino?
Oui, parce que je l'aime beaucoup. C'est un type libre, peut-être plus libre que moi encore.
Lui, il dépote
comme
le
tous
Festival
les Américains, vous savez que les enfants américains sont terriblement libres quand ils sont jeunes. C'est pour ça qu'ils deviennent de très bons acteurs. Ils savent où mettre leurs mains, etc. Parce que nous, on ne sait pas. Les Français ne savent pas.
Les Français ne savent pas quoi faire de leurs mains.
Non, surtout
vous,
les acteurs.
Vous, Jean-Pierre Mocky, vous ne savez pas quoi faire de vos mains.
Si, moi, je sais quoi faire. J'ai appris.
Vous auriez aimé être américain? Vous auriez préféré être américain?
Pour mes enfants, oui, j'ai beaucoup d'enfants. J'aurais préféré qu'ils soient élevés aux États-Unis parce qu'on leur laisse une liberté quelquefois trop grande. Mais ils sont simples, ils sont bien habillés avec des blue jeans. Qu'est-ce qui a inventé le blue jean? C'est pas moi. Hein.
Et vous avez, est-ce que c'est vrai le fait que vous avez 17 enfants et vous l'avez appris sur le tard de tas de femmes différentes?
Parce que vous savez, à l'époque, on baisait en 48 à cause de Monsieur Sartre et de Monsieur Camus. On tirait des coups tout le temps. Et résultat, on ne sait pas combien on a d'enfants. Il n'y a que les femmes qui peuvent le savoir. Il n'y avait pas d'ADN à l'époque. Et aujourd'hui, on essaye de s'y retrouver avec l'ADN. Parce qu'il y a tellement de possibilités d'avoir des enfants.
Oui, vous auriez pu intituler votre livre « Je vais encore me faire des enfants ». Mais...
mais j'en ai beaucoup, j'en ai peut-être une cinquantaine, je ne sais pas.
Donc là, vous recevez régulièrement des demandes de pension alimentaire, etc.
Non, alors ça c'est bien, parce qu'on dit que les femmes sont perfides et qu'elles...
On le dit.
Guillaume Meurice le dit, mais
c'est pas... Je dis, à propos des perfides, à propos des enfants seulement, elles veulent une pension, etc. Alors moi, jamais on en a réclamé. Donc je suppose que ce sont mes enfants, parce que je ne vois pas pourquoi.
Vous dites tout le temps que vous êtes ruiné, alors c'est peut-être pour ça.
Oui, je ne suis pas très riche, mais enfin, je ne pourrais pas leur donner grand-chose.
Jean-Pierre Mocky, est-ce que vous seriez passé par la Belgique dans les fins des années 70 ou pas? Si ça se trouve, je suis votre fille.
Oui, je suis passé par la Belgique et j'ai un enfant belge. C'est une petite fille, mais maintenant c'est une vieille fille.
On la sait.
Calypso girl is good.
chantait Calypso Blues. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Mocky, invité de nos florilèges d'automne. Nous réécoutons une émission de 2015. Et tout ça ne nous rendra pas Giscard. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Mocky qui publie « Je vais encore me faire des amis » au Cherche Midi. Et on va vous aider, Jean-Pierre, à vous faire encore plus d'amis aujourd'hui. Et nous aussi, parce qu'on compatit. C'est un sport national. Avec ce premier sujet, les valeurs de la résistance entrent demain au Panthéon, accompagnées par François Hollande.
Étiez-vous ou non super résistant?
Je n'ai rien à voir avec ce Superman d'opérette. J'étais coiffeur stagiaire à la Madeleine. J'avais un travail fou. J'ai dû porter deux ou trois messages pour les résistants. Voilà, c'est tout. On va pas en faire une chenille.
Non, monsieur Bourdel est beaucoup trop modeste et c'est tout à son honneur. Mais il était fort connu dans la résistance sous le nom de Sparadrap.
Sparadrap. Mais tout ça, c'est l'histoire ancienne. Ça n'intéresse plus les jeunes. Ce qu'il leur faut maintenant, ce sont des héros virils et musclés, genre Rocky.
Voilà, c'est un Martin Lamotte. Dans Papy fait de la résistance, bien sûr. Alors, les quatre résistants vont entrer dans leur dernière demeure, parce que première, ils pensaient que c'était la dernière, mais il y en a encore une derrière, voilà. Une forme de canonisation républicaine, parce que finalement, il y a quand même certains codes du religieux dans cette histoire. Une espèce de grand show aussi, où il va y avoir beaucoup de caméras, un souffleur pour dire à François Hollande où il doit aller, une réalisation par un réalisateur de télévision. Ça a tout pour vous plaire, ça, Jean-Pierre Mocky? Ça vous aurait plu de réaliser ce genre de choses ou
Non, pas du tout, non. Je vais vous dire, moi, ce qui je trouve émouvant, c'est ces gens qui se sont battus pendant la guerre, ça, il faut bien dire. Mais choisir seulement ces quatre-là, je trouve que c'est un peu injuste, parce qu'il y en a d'autres. Et c'est toujours pareil. Pourquoi ces quatre-là, ou ces cinq-là, je ne sais pas.
Alors, à travers les quatre, évidemment, c'est la résistance.
Ben oui, mais il y avait d'autres résistants, et des histoires qu'on ne connaît pas, parce que vous savez, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées par la résistance, que les gens ignorent, même les historiens.
Mais c'est mieux d'en faire quatre que pas du tout. C'est une façon de...
Oui, mais bravo, non, je ne dis pas, je ne suis pas contre, moi. Je veux dire, on peut intéresser des tas de gens.
Mais disons qu'il y a un déficit de logement au Panthéon.
Oui, c'est-à-dire
qu'il y a un moment...
Mais ils sont quand même que 71, il y a encore de la place. On peut bourrer, on peut mettre des étages.
Faudrait mettre plus d'artistes, à votre avis, au Panthéon. Je pense pas à vous directement,
pour
bien
le moment,
que je sais que
y
vous
y
avez
pensé. Pas. Et je crois pas qu'il y ait des artistes, à part Malraux, qui était un artiste et qui m'a énormément aidé, moi, donc je suis très content qu'il soit là. C'est un hommage, mais je veux dire, à part lui, est-ce qu'il y a d'autres? Je sais pas. Il y a évidemment Victor Hugo. Zola,
écrivain,
maître, mais... Zola, c'était formidable. D'avoir mis Zola, c'est quand même un résistant, lui aussi. Je veux dire, ouais. On aurait pu le bouder. Avec l'affaire Dreyfus et tout ça, on aurait pu l'envoyer au diable.
Alors, ça permet à Hollande de placer quelqu'un, mais là, pas de son vivant. Alors, d'habitude, on place quelqu'un de son vivant, mais là, non. Au moins, il n'aura pas de soucis. Voilà. Donc, le choix des entrants, ça permet aussi au président de la République d'imprimer, de montrer les valeurs qu'il veut imprimer à son quinquennat. Oui. Et là, ce sont les vertus du combattant. Oui. Amour de la patrie, courage, endurance, fermeté face à l'adversité. C'est tout François Hollande, ça.
Ben, c'est le Mali, c'est tout ça, c'est toute la sauce. Ben oui, c'est son truc où il triomphe. Mais heureusement, il triomphe là-dedans. Triomphe à l'extérieur, pas à l'intérieur.
Revenons au présent, au moment, à l'instant, en 2021, avec une chronique récente, Alex.
Je dirais, revenons à l'intemporel. La petite sirène d'Anderson, chroniquée par notre petite sirène à nous, Juliette Arnaud.
Voilà, et à 50 ans, Andersen, il écrit son autobiographie qu'il fait débuter avec cette phrase « Ma vie est un beau conte de fées, riche et heureux ». De là, deux options. Soit tu ricanes en te disant « Dis donc, Hans Christian, tu te prends pour Paris Hilton ou c'est comment ?» Soit tu notes l'emploi du mot « conte ». Alors tu vas chercher ton dictionnaire littré et tu trouves comme définition « récit d'aventure merveilleuse, fait en vue d'amuser ». Et puis tu te souviens aussi qu'un conte de fées, s'il ne contient pas forcément une fée, renferme nécessairement une chose magique. Et cette chose magique entraîne souvent une métamorphose. Et effectivement, qu'un petit garçon, né dans une famille pauvre au début du 19e siècle au Danemark, parti à 14 ans essayer de devenir acteur à la capitale, devienne, après avoir échoué à être acteur et après des études si laborieuses qu'on dirait Alex en train de m'expliquer le féminisme, que ce Danois-là devienne le plus célèbre Danois au monde et déjà de son vivant, oui, Andersen était en droit de causer d'une aventure merveilleuse, de magie, de métamorphose. Métamorphose comme la fille née Ondine, l'autre mot pour sirène, c'est-à-dire génie des eaux, qui, à la fin du conte, la petite sirène devient sylphide, c'est-à-dire fille de l'air, génie ailé qui vit dans les airs. Oui, Alex, je divulgâche allègrement, j'ai le droit. Tout le monde connaît l'histoire de la petite sirène. Il y a peu d'histoires plus adaptées. Bah, c'est normal, t'as eu deux garçons. Peu d'histoires plus adaptées depuis sa création en 1837. Tellement adaptées qu'en la relisant cette histoire 40 ans plus tard, 40 ans après la première fois, punaise, 40 ans, bref, je fus ahuri par le mal que ces adaptations lui ont fait à ce conte. Premièrement, la petite sirène, petite car Benjamin de ses sœurs, ne sacrifie pas sa queue pour être aimée d'un homme. Oui, alors ça peut avoir un air un poil graveleux, mais non. Enfin si, peut-être, vu qu'Andersen était sans doute homosexuel de cœur, à défaut de l'être pleinement, et que tout ça ne s'est pas fait dans le plus grand des calmes. Bref, la petite sirène sacrifie sa queue de poisson parce qu'elle ne veut pas vivre 300 ans dans son beau royaume d'onde, puis devenir de l'écume. Elle veut vivre moins, d'accord, mais avoir une âme éternelle comme nous, les humains. Elle veut sortir de sa condition. Elle est prise, la Benjamin, d'un désir de transcendance. Je cite Andersen, « Elle se mit à aimer les humains de plus en plus. Elle souhaita monter parmi eux. Leur monde lui paraissait plus vaste que le sien. » Bon, alors, évidemment, tout ça, c'est pas gratuit, et c'est la sorcière des mers qui lui indique les termes du deal. Au passage, notons que la sorcière n'est pas d'accord. Dès le début, elle dit à la gosse, c'est stupide de ta part, mais elle estime qu'elle doit respecter sa volonté. Voilà, voilà, ça c'est pour la sorcière. Le deal, c'est plus de queue, mais des jambes, avec néanmoins la sensation de marcher sur des poignards acérés à chaque pas, et plus de langue. Oui. Une femme muette, oh comme c'est intéressant. Enfin, pour choper l'âme éternelle, il faut que le prince aux grands yeux noirs l'aime, et je cite Andersen, il faut qu'il l'aime tant qu'elle soit plus pour lui que son père et sa mère. Alors seulement, l'âme du prince s'infusera en elle, amen. Deuxièmement, à aucun moment du conte, à aucun moment, le prince n'aime la petite sirène de cette manière. Et je cite Andersen, à défaut de l'ensorceler par sa voix, la petite sirène danse divinement, et lui il l'appelle... « Mon petit enfant trouvé ». Ouais, on a fait plus sexy. Après, il lui fait faire un costume d'homme pour qu'elle l'accompagne à cheval. Ouais, on est clairement en friendzone. Alors, elle obtient le droit de dormir devant sa porte sur un coussin de velours. Ouais.
Velours quand même.
Oui, ouais. D'accord, enfin devant sa porte. C'est marrant.
Même pour les courants d'air, comme ça les... pardon. Conseil comme c'est par Jupiter.
C'est marrant, mais c'est pas exactement le souvenir que j'en avais. En même temps, Andersen a dit maintes fois qu'il écrivait pour tout le monde, pour les enfants aussi, mais que les adultes auraient quelque intérêt à écouter. Je confirme. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Et après, vous nous bordez, et puis...
Ah oui, après une claque et au lit.
Et on continue nos allers-retours entre passé, présent, présent, passé. Et on rejoint Jean-Pierre Mocky il y a 6 ans. Parce que c'est trop bon de le réentendre, tout simplement. Jean-Pierre Mocky, et on aborde le deuxième sujet avec vous. Après le palmarès à Cannes, le cinéma français est à la fête. Et fête et cinéma français, c'est pas toujours faut en profiter,
c'est
ça arrive pas souvent.
C'est une triste fête. Non, le problème du festival, c'est que j'ai toujours, je le suis depuis 68 ans. Il y a que 10 ans où je me suis arrêté de le suivre, mais enfin, je veux dire, je le connais depuis sa fondation. Il a beaucoup changé. Au début, on voyait Gary Cooper, Ingrid Bergman, Charlie Chaplin, etc. Aujourd'hui, on voit des gens qu'on connaît plus ou moins, qui sont tous en train de choisir des sujets pour avoir le prix. Alors, exemple, des Indiens à Paris, des choses, rien que des films faussement sociaux. C'est-à-dire, on se dit, tiens, je veux aller à Cannes l'année prochaine, donc je vais faire un truc, alors là, sur les SDF, ou alors sur les camps de concentration, ou alors sur des infirmes.
Un truc
ou
fun.
Alors, alors, on choisit des sujets où on est obligé d'avoir le prix. Ma mère est morte, va mourir après, etc. Rien que des trucs comme ça, mon fils est mort, rien que des trucs à se flinguer, mais en plus, qui n'ont rien à voir avec le mystère de Tom... Enfin, les frères Cohen font pas ça, d'ailleurs, dans le cinéma, ils font pas du tout ça. Et Tim Burton et Terry Gilliam et tous les autres. Et
c'est
là,
vrai,
brusquement, ils vont tous là pour faire des trucs et puis avoir, avoir un chômeur, mais évidemment, on est triste de voir tous ces chômeurs. etc. Tout ce qui a été récompensé, ce sont des films qui ont été faits comme des élèves pour passer à Sciences Po, vous comprenez?
Vous dites que c'est facile de gagner la palme, en gros.
Mais écoutez, quand on a fait un film, moi j'ai eu des parents qui sont morts en camp de concentration. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire un film là-dessus.
Vous voulez pas la palme?
Il y a eu des films comme ça, formidables, il y a eu Nuit et brouillard, il y a eu... Pourquoi aller dans un festival et être concurrent dans un truc où vous êtes sûr de gagner? Parce qu'en fait, c'est ça. On peut pas ne pas donner le prix à quelque chose comme ça. C'est trop grave, les camps de concentration. Même si le film est pas très bon, ça fait rien. Il faut donner le prix à ça. Vous comprenez? C'est pour ça que tout est faussé. Après, vous prenez un pauvre Indien qui vient en France. Mais vous prenez des sujets, un paralytique, etc. Alors, évidemment, vous avez une espèce de commotion. C'est-à-dire, les gens sont émus et ils peuvent pas donner le prix à une comédie où il y a deux types qui regardent une femme à poil dans une piscine.
Alors c'est pas Rocky, comparable. Est-ce que c'est pas votre côté un peu italien? Parce que justement, cinéma...
Mais italien madré, c'est un type qui parle de la mort de sa mère. Je respecte la mort, mm-hmm. mais on peut pas faire un film, c'est pas Dalida.
Alors vous savez qu'il y avait Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone qui n'ont pas reçu de prix. C'est le cinéma français qui a gagné.
Eux, et donc, ils étaient bien.
Les Italiens sont pas contents et La Repubblica, dans son édito, dit c'est un festival de l'engagement social. Finalement, c'est le récit de la réalité qui l'emporte et on a oublié les Italiens.
Et aujourd'hui, on ne donnerait pas le prix à Fellini. On ne donnerait pas le prix à Visconti.
Vous
on
voulez dire
pas
que le festival, est-ce que vous diriez que le festival de Cannes s'achète une bonne conscience?
Mais le festival de Cannes, c'est l'image de ce type qui vend des bijoux, qui est entouré de pépettes, de petites pétasses, et qui sont toutes belles, qui se font baiser toute la journée. Et on est en train tout simplement de vendre des bijoux. Et on ne vend pas du tout des films. Alors ce festival, d'abord, il ne faut pas de prix dans un festival, parce qu'il n'y a que des combines après. Il faut qu'on présente des films. Tout simplement, aux spectateurs, et il n'y a pas de prix. Parce qu'on ne peut pas comparer, si vous voulez, un petit film de rien du tout avec une super production, ou des mecs comme Audiard et Neke qui ne travaillent que pour le festival. Ils sont payés pour travailler pour le festival. D'ailleurs, vous avez peut-être vu ce qu'a dit Audiard qui a dit, Neke, je suis là. Ben, on est là, il y avait Angelopoulos avant, il y avait toute une bande de mecs comme ça qui sont chiants, les frères Dardenne, toute la bande.
C'est les Belges.
Mais je m'en fous qu'ils soient Belges ou Chinois. Non, mais écoutez, on n'est pas au cinéma pour se faire chier. Alors, les gens, ils regardent ça, ils se font chier, mais ils trouvent ça très bien.
C'est fou qu'un grand cinéaste comme vous.
Merde, et non, moi j'aime Hitchcock, j'aime Clouseau, j'aime autant Lara, j'aime je sais pas qui,
on n'est pas là pour se faire emmerder,
ce que vous voulez. Mais là, vraiment, c'est un scandale.
Rebaptisons-le le festival de la petite combine. Alors.
Mais écoutez, moi, le cinquième festival que j'ai vu un monsieur me donner le prix du film. Mais il y a deux femmes que le prix avant le début du festival, on connaissait le prix. Il y a deux femmes formidables. C'est Madame Ingrid Bergman et Françoise Sagan. Vous savez ce qu'elles ont fait quand on a voulu leur imposer un prix? Elles se sont barrées. Elles ont foutu le camp. Ça doit avoir des couilles. Ça s'appelle avoir des couilles, ça. Et c'est deux femmes. Par contre, Scorsese, il a donné à l'unanimité le prix à un film il y a deux ou trois ans, je sais pas, il dit qu'il n'aimait pas. Il se baladait en disant « je l'aime pas » et puis il était à l'unanimité. Vous vous rendez compte? Il y a de quoi vraiment rentrer en colère. C'est pour ça que je rentre en colère.
Oui, c'est une raison, c'est salutaire. Et tiens, dans cette émission avec Jean-Pierre Mocky, Guillaume avait choisi quel thème de chronique, Alex?
Alors, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, entend-on souvent, mais est-ce que l'Alsace aura la Lorraine et est-ce que la Lorraine aura l'Alsace? Et que faire de la Champagne-Ardenne dès lors? Eh bien, Guillaume a essayé de dénouer ce problème.
Ce week-end, je suis allé à Mulhouse. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, Clara. Passer du Festival de Cannes à Mulhouse, c'est un peu comme passer de Las Vegas au Kosovo. Franchement, je trouve pas ça très sympa de votre part, Clara.
N'importe quoi.
Si, surtout qu'ils sont à cran, les Alsaciens, en ce moment, à cause du projet de fusion des régions. En effet, l'Alsace devrait fusionner avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et des élus du Haut-Rhin se sont donné rendez-vous pour en discuter à Mulhouse. Par exemple, le maire de Danemarie, Paul Mundbach, pour qui la fusion des régions est...
Tout simplement, c'est une catastrophe. Je pense très franchement que...
Ah oui, à ce point-là, quand même.
Ah, non, c'est plus qu'une catastrophe.
Ah, plus qu'une catastrophe.
C'est plus qu'une catastrophe. C'est un changement de société qu'on est en train de nous préparer.
Et ben voilà, un changement de société, ni plus ni moins. Il y a eu quoi? La découverte du feu, Internet, et il y aura la fusion de la choucroute et du champagne. Préparez-vous à un changement de civilisation majeur. Qu'en pense Bernard Sakepé? C'est le maire de Vikersuirn.
Je vais vous dire, je suis champenois d'origine, je suis pas trop pour la Champagne-Ardenne. Mais au moins...
Vous avez trahi votre patrie.
Ah, je l'ai pas trahi. mais ils conçoivent pas la vie comme nous.
Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, ils sont pas comme eux. C'est complètement une autre manière de vivre. D'ailleurs, il y a un épisode de Rendez-vous en Terre Inconnue où Frédéric Lampez emmène un Alsacien en Champagne-Ardenne. Eh ben, le type est paumé, hein, parce que c'est autre chose. Parce que les Champenois sont différents. Comme dirait Bernard, les Champenois.
C'est des têtes de cochon. Faut pas dire autre chose.
Mais vous en êtes une alors, parce que vous venez de là-bas. Mais
tout à fait. C'est pour ça que je suis maire en Alsace.
C'est ça, vous avez fui la région Champagne-Ardenne.
Voilà. Voilà la Champagne-Ardenne. Allez, dans toute société, il faut des bâtards. Le principal, c'est de savoir où ils sont.
Ouais, c'est un petit poil violent pour notre ami Bernard. Bon, s'il y a une guerre mondiale et que vous êtes champenois, n'allez pas vous cacher dans la cave de Bernard, en gros. C'est quand même fortement déconseillé. Bernard qui cultivait pourtant une double culture jusque dans son physique. Vous êtes un peu le sosie de Jean-Pierre Coff et de Michel Sapin en même temps.
Tout à fait. Merci, c'est vrai. C'est vrai.
On vous le dit souvent ?
Oui, on me le dit souvent. Mais j'ai un avantage par rapport à Jean-Pierre Coff, c'est que moi, je sais cuisiner.
Voilà, bah, ça fera plaisir à Jean-Pierre Coff, qui est lorrain, hein, je le rappelle, d'où la rancœur de Bernard. Ça va loin, hein, ça va même très loin, puisqu'il y avait des activistes alsaciennes qui se font appeler les Alsaciennes réunies, qui étaient venues manifester devant la salle de réunion. Bon alors, soyons honnêtes, quand elles se réunissent, elles sont 12, mais quand même, elles étaient là en costume traditionnel, n'est-ce pas ?
Ça, c'est une jupe traditionnelle. C'est de couleur violette, c'est pour les protestants. Couleur rouge, c'est pour les catholiques. Et ensuite, c'est customisé avec ce qui nous plaît.
Ça, c'est customisé avec Zara.
Non, c'est pas Zara.
C'est H&M.
C'est H&M.
Voilà, des Alsaciennes traditionnalistes qui portent du H&M. C'est comme si les petits-enfants chinois qui les fabriquent portaient des coiffes alsaciennes. À moins que ce ne soit pas H&M, mais Aschheim, une petite ville d'Alsace. Laissons-leur le bénéfice du doute. Parce qu'il y a d'autres traditions qu'elles veulent préserver. Par exemple, la langue alsacienne.
Que est amour qu'à France Inter.
On a l'impression de se faire agresser.
Merci en tout et melsos. Hola froya sin voir.
Là, vous venez de me faire une déclaration d'amour, cher Connu.
Voilà, tout à fait.
Voilà, une déclaration d'amour qui te donne envie de mourir, quand même. Un petit peu comme celle que vous faites à Clara à chaque début d'émission, Alex.
Vous la ferez en alsacien, d'ailleurs, Alex, maintenant.
Ça sera encore plus violent. Alors, dernière chose à laquelle tiennent les Alsaciennes et les Alsaciens traditionalistes, le concordat. Eh oui, en Alsace, les rabbins, les prêtres et les pasteurs sont rémunérés par l'État. Mais alors, pourquoi pas les imams ? Retournons voir Paul Mounbach.
Moi, j'ai rien de particulier contre les imams, du moment qu'ils respectent la République.
Donc, vous pour rémunérer les imams
Mais non, ça veut dire tout simplement que je suis pour réexaminer effectivement un certain nombre de choses.
Oui, mais est-ce que vous seriez pour rémunérer les imams
Écoutez,
par l'État
moi, si les prêtres catholiques, etc. sont rémunérés, je ne vois pas pourquoi on ferait des différences.
Ils sont même rémunérés. Ils sont
oui,
pas rémunérés.
Et alors
Ok, donc vous êtes pour. Est-ce que vous avez du mal à le dire, c'est pour ça ?
Non, oui, j'ai du mal à le dire parce que je ne sais pas ce que ça implique derrière.
Et les raéliens ? Est-ce qu'on peut les rémunérer par l'État ?
Pourquoi pas ? Je ne suis pas hostile à ça.
Ah, bah voilà. Il met un certain temps à être cohérent, mais quand il est cohérent, il l'est à fond, Polo. Bon, moi, je vais créer une secte où Clara Dupont-Mono est une déesse et où Alex Vizorak sera le prophète. Et il sera interdit de vous caricaturer, Alex, parce que vous êtes assez fort pour le faire vous-même. Et si quelqu'un s'y risque, il sera pendu, ou pire, envoyé en Champagne-Ardenne.
Merci, Guillaume Meurice.
Soleil.
titre de Polo et Pan, pour l'instant sur la playlist France Inter, bien sûr, programmation musicale de cette émission, c'est Djoubaka. Alors je vous propose à présent de retourner dans le passé, daté de 2017, nous avions reçu Virginie Efira, car le DVD du film Victoria venait de sortir. Ce film a contribué à accélérer sa carrière au cinéma, un film de Justine Triet.
Aussi, dont... c'est venu dans l'émission, a bien accéléré, je pense, sa carrière dans le cinéma. Si je... enfin, voilà, elle ne le dit pas toujours. Mais...
un film de Justine Triet dont on utilise parfois des extraits dans notre émission d'ailleurs. En réécoutant ce moment, il vous prendra peut-être l'envie, Alex, de revoir ce film. Une comédie, mais pas que, comme nous l'explique Virginie Efira.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoumecker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bonjour Virginie Efira.
Bonjour Charline.
Bienvenue chez nous.
Bonjour à tous.
Enfin chez eux, puisqu'on
bonjour.
Est tous belges.
Oui.
Virginie Efira, le DVD de Victoria de Justine Triet vient de sortir. Victoria, on va rappeler, c'est une jeune avocate et une jeune maman célibataire qui se lance dans la défense d'un ami qui est dans une situation absolument désespérée mais impossible à sauver. Il est accusé de tentative de meurtre et le seul témoin, c'est un chien. Vous devez vous en occuper. Alors elle embauche un ex-dealer comme assistant et sa vie devient un cataclysme. Victoria est perclue de névrose et elle s'en sort quand même. Alors c'est un rôle qui vous vaut d'être nommé au César. C'est donc forcément pas tout à fait une comédie si vous êtes nommé au César. Est-ce qu'il y a une part de tragédie qui magnifie le rôle? Parce qu'on rit énormément, mais il n'y a pas que ça dans Victoria. C'est quelque chose de subtil, de sur le fil.
Il y a que dans les contradictions quelque chose de beau peut se jouer, quoi, que ce soit dans la vie, dans un personnage, au cinéma ou en dehors. Donc ce que Justine a pu faire en utilisant la comédie, c'est de parler justement de sujets très durs et en pouvant y mettre une distance élégante et juste. D'ailleurs, toutes les grandes comédies, enfin, elles ont toujours deux pendant, quoi. Enfin, on rit de choses tragiques en permanence. Voilà.
Vous êtes débordée, vous êtes prise par la vie, vous êtes avec des gosses, avec des amants, avec un vrai bordel incroyable, et puis obligée d'interviewer un chien à un moment donné. Vous le faites vachement bien. Donc il y a aussi de la rédemption quand même dans cette affaire-là.
En tout cas, le film ne dit pas qu'il y a un endroit de grande nuisance et où on est encombré par les problèmes, et un endroit où par l'amour tout serait solutionné, ne serait que beau. Ça raconte que c'est quand même souvent la merde, que tout ça est très complexe, que c'est difficile de s'en sortir, qu'est-ce qu'un sentiment, etc. Mais que ça vaut le coup quand même, qu'il y a parfois des éclats de beauté, quoi. Enfin voilà. Et puis c'est surtout le portrait d'une femme extrêmement cérébrale qui ne sait plus ce qu'est un élan, quoi. Et qui à la fin passe d'essayer, que c'est une avocate, d'avoir la parole exacte tout le temps, la bonne réponse, à l'idée de quelque chose qui passe moins par la tête, qui serait un sentiment.
Oui. Quand on lit un rôle comme celui-là, est-ce qu'on y sent le potentiel ?
Pas du tout.
Voilà.
Ah non, pas du tout. J'ai une discussion comme ça avec mon ami qui me dit « Mais t'as dû penser à ça quand t'as tourné ?» Je dis « Mais absolument pas !» Déjà, comment moi, vous avez cité mon parcours, je pouvais me dire « Je vais faire un... » Attends, ça, je fais ce film-là, ça, je pense que c'est un César. Je vais me penser une chose pareille, franchement.
Est-ce que vous avez déjà écrit votre texte de remerciement ?
Bien sûr, je vais vous le faire. Ah. Chère Isabelle Huppert, tu pensais l'avoir. Eh oui, les sondages en politique, c'est comme les Césars. Mais donc, il ne faut pas les écouter.
Premier sujet avec vous, Virginie. Pourquoi détestons-nous les politiques ? La question est à ce point brûlante que les presses de Sciences Po publient l'ouvrage de deux professeurs qui proposent des explications sur ce thème, parce qu'il va bien falloir en sortir. En attendant, tous les témoignages vont dans le même sens.
Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui ne regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul...
Extrait de Pulp Fiction, évidemment, version française, donc... ça passe moins bien.
Ça passait.
Alors, Virginie Efira, j'ai lu que vous veniez d'obtenir la nationalité française, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Ouais, parce que
tout
vous...
en gardant la Belge.
Ah voilà, parce que vous vouliez voter, alors vous êtes contente de voter cette année, ça ? Vous avez bien fait toutes ces démarches.
Mais je continue de penser quand même que ce sera quelque chose. Enfin, je veux dire que ce sera important d'y aller, quoi. Mmh. Ouais.
Donc là, ça va, vous êtes contente de l'avoir fait pour justement cette année, quoi. C'est... Vous voyez clair, là. Vous voyez où vous allez aller,
si
ou quoi
je vois très bien où je ne veux pas aller, ce qui est déjà en soi quelque chose. Mm-hmm. Si je vois clair sur où aller, Ça se clarifie, mais c'est surtout par des choses qui tombent et des choses qui restent, mm-hmm. plutôt qu'un premier aidant du cœur, certain et
voilà.
Après, non, exclusif.
Ce soutien à Macron, vous allez vous impliquer dans la campagne.
Vous trompez complètement.
Je tente. Hein,
alors, il y a un ouvrage donc, publié aux presses de Sciences Po qu'on salue parce qu'il nous écoute, paraît-il, avec deux professeurs, Emiliano Grossman et Nicolas Sauger. Pourquoi détestons-nous autant nos politiques ? Est-ce que vous avez aussi une forme, peut-être pas de détestation, je trouve que le mot est fort, mais...
Haine.
Dans visite. Vous avez une haine du politique. Voilà, c'est ça. Ou une manque de confiance, une aversion.
Non, j'ai pas une aversion parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tout le côté les politiques ils se ressemblent tous et tout ça, l'espèce de choses complotistes. Enfin là, il se passe des
populistes
et tout ça. Ça je trouve ça compliqué. Après, je comprends assez bien cette chose là où on a l'impression peut-être qu'il y a une forme d'institution. Si dans l'histoire française, qui est un petit peu marquée, qu'on viendrait toujours du même profil, qu'il y ait une forme de vanité qui passe avant. C'est sûr, quand on regarde un débat politique, il y a toujours, on a l'impression qu'avant les idées, il y a l'individu, et c'est toujours que dès qu'il y a une idée contraire, on va, dès qu'il y a une idée qui pourrait être intéressante, parce qu'on fait partie d'un autre parti, on la conteste immédiatement sans essayer d'étayer une pensée, parce qu'on a l'impression que, effectivement, que cette logique très juste de la démocratie qui fait que, mais qui a une réflexion à court terme et qui fait aussi qu'à des endroits où on attend quelque chose, c'est-à-dire le politique ou même le médiatique, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas des réponses à court terme ou des choses où on essaie de réagir de manière immédiate parce qu'on peut pas avoir ces bonnes réponses-là, que le politique aujourd'hui agit aussi avec une part d'émotionnel qui est assez déstabilisante. Et
une partie de ce que vous venez de dire figure dans cet ouvrage,
oui,
d'ailleurs.
Oui, j'imagine qu'il y a quantité d'autres choses.
Non, bien sûr, il y a plein de paramètres et notamment
après, le fait... rejeter le politique, enfin, je veux dire, moi je crois très fort en que si tu t'occupes pas de politique, elle s'occupe de toi. Donc comment faire avec toutes ces choses-là ?
Alex, oui. Back to 2021, le temps d'une chronique.
Oui, saviez-vous que les Africains sont superstitieux ? Ah bah, j'ai découvert ça. Moi, je ne m'y attendais pas du tout.
Oui, c'est vrai.
Et en tout cas, quand c'est une Africaine qui nous l'explique, c'est beaucoup plus clair. Rukyata Ouédraogo.
On parle souvent des vieux proverbes africains, mais il existe aussi chez nous des expressions modernes que j'aime bien. L'une d'elles me plaît particulièrement. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Chez nous, la peur est une grande affaire. Enfant ou adulte, on a tous peur des sorciers, des génies, des fantômes. Par exemple, hier, mon fils s'est réveillé en pleurs à 1h du matin et impossible de le faire taire. Au même moment, j'ai entendu le cri d'un oiseau de nuit. Chez moi, on croit que si au milieu de la nuit, un enfant crie en même temps qu'un certain oiseau de nuit, celui-ci peut donner des maladies à l'enfant, voire prendre son âme. Pour éviter cela, les parents doivent taper des mains ou sur leurs cuisses. Mais plus je tapais sur mes cuisses, et plus mon petit pleurait. Mon mari m'a demandé entre deux ronflements, « Tu es sûr qu'il n'y a pas mieux comme solution ?»« Non, ça va marcher. Vous n'imaginez même pas l'état de mes cuisses ce matin. » Autre exemple, une femme enceinte ne doit pas manger de la viande de rat voleur, sinon elle accouchera d'un voleur. Vous connaissez les rats voleurs ?
Ben non.
Non ? Et ces animaux volent tout. Les bijoux, l'or et surtout les billets de banque dont ils se font un matelas dans leur terrier. Ouais. Il y en a même un qui a volé un cheval un jour. Si. Le paysan a cherché son cheval pendant 2 jours. Il l'a finalement retrouvé dans la brousse. La longe de l'animal était fichée au sol, dans le sol, solidement attachée dans le fond du terrier d'un rat voleur. Je souligne que cette histoire est vraie, car ma mère qui me l'a racontée la tient des messieurs absolument dignes de fou.
Si c'est pour prendre les Occidentaux pour des truffes, on est quand même vigilants. Hein.
Ah, tu te reconnais
dedans ? Oui.
Un dernier exemple. Si le parfum d'un bon repas vient à te flatter les narines, tu ne dois pas dire ça sent bon par ici. Car si ce sont des génies qui cuisinent dans le coin et qu'ils pensent que tu veux manger leur repas, ils peuvent te gifler. Et comme tu ne les vois pas, tu ne sais pas d'où vient la baffle. J'ai longtemps cru qu'il n'y avait qu'en Afrique qu'on croit à ces histoires à dormir debout. Et quand je les racontais, tous mes amis français ricanaient en se félicitant d'appartenir à ce peuple cartésien vivant au pays des Lumières. Mais un jour, à l'époque du spectacle vivant, je vous parle d'une époque que les moins de 2 ans ne peuvent pas connaître, hein, je suis arrivée au théâtre avec un joli manteau vert d'occasion tout neuf. Quand mon régisseur m'a vu, il est devenu tout pâle. Ton manteau, mais il est vert, mais c'est la merde, tu peux pas rentrer comme ça.
J'ai écarté ce cornichon, incapable d'expliquer pourquoi le verre est banni dans le théâtre. Et j'ai traversé la scène où le technicien lumière réglait ses projecteurs sous son échelle. J'ai les salué et là, il a hurlé. Ah, mais t'es passé sous l'échelle! C'est la merde! Cet andouille n'a pas été capable de m'expliquer pourquoi il est interdit de passer sous une échelle. Alors, j'ai continué jusqu'à ma loge où le miroir était brisé. J'ai appelé l'administrateur pour qu'il le change. Il arrive dans ma loge en sueur. Ton miroir est brisé! Ah! Mais c'est la merde! Mais pourquoi c'est la merde? Quelqu'un peut m'expliquer? Je commence à m'échanger et là, je vois un gros chat noir plein de poils allongé sur ma tenue de scène. Moi, qui suis allergique aux poils de chat, c'en était trop. J'ai ouvert la porte de ma loge et j'ai crié « Qui a laissé rentrer ce chat noir dans ma loge ?» Vous me croirez, si vous voulez, le régisseur tout pâle a décidé d'annuler la représentation ce soir-là. L'administrateur en sueur a résilié mon contrat et le technicien lumière m'a supplié en claquant des dents de ne plus jamais remettre les pieds dans cette ville. C'est l'homme qui a peur, sinon, il n'y a rien.
Ah, bravo, Roquette, à votre
ça fait deux ans qu'il n'y a plus de spectacle, le résultat, bravo.
Voilà. À revoir en vidéo aussi, notre rookie.
Et toujours dans un esprit de rigolade et de détente, oui. On rejoint Virginie Efira dans cette émission de 2017 qui fait partie de nos florilèges d'automne.
Oui, pour le sketch, restez pour le sketch.
Vous êtes sur France Inter, en compagnie de Virginie Efira. On va aborder le deuxième sujet avec vous, Virginie. Quand en commun les cheveux de José Bové, Isabelle Autissier et Nicolas Hulot, tous écolos. On s'était dit qu'ils contiennent tous des traces de cannabis. Un peu de cannabis. Mais non.
Même pas.
Non. Alors ça, on ne sait
oui,
pas.
Oui, j'allais dire.
On ne sait pas. En tout cas, ils contiennent de nombreuses traces de pesticides, de plastiques et d'insecticides. C'est la conclusion tirée par l'association Génération Future. Et dans 50 tant quel sera le constat sur un individu.
Oh, admirable! C'est le dolichocéphale parfait, très rare chez un Européen. Chapeau! Regardez, le frontal daoméen, l'occipital médache, le pariétal berbère et l'orbite égyptienne. Ça, l'orbite égyptienne, très rare. Ça. Quel dommage que les apophyses ne soient pas plus agressives. Mais quelle tête admirable, quelle faciès! J'espère avoir la chance de travailler un jour sur vous.
Francis Blanche dans Les pissenlits par la racine, ce qui va nous arriver beaucoup plus vite que prévu apparemment. Je vous détaille la chose. Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF, elle a 68 perturbateurs endocriniens détectés. Donc elle dit, mais je suis terrifiée, d'autant plus que j'essaye de manger bio. Je ne mets quasiment rien sur ma figure. Chez moi, j'ai pas de produits ménagers. Alors vous, Virginie Efira, est-ce que ça vous effraie? Vous dites, tiens, dans mon cas, ça se passerait comment?
Bah, vu que moi, je m'expose à tout, hein, sans crainte, je pense que j'ai rien sur la tête, quoi. Non, moi, j'y vais. Oui.
Ah, vous allez tout droit, vous.
Oui. Ah, bon, non, grande consommatrice de gluten, grande consommatrice de tout, là, oui.
Ah, mais c'est chouette, c'est une bonne vivante. Mais oui.
Non, mais enfin, je veux dire que, c'est amusant, d'ailleurs, de constater que quelqu'un qui devrait pas du tout y être sujet y est totalement. On a l'impression qu'il y a aucun endroit protégé, quoi, et que si on se met un obsédé de la protection, de si on peut pas et tout ça.
Oui, ça sert à rien d'être obsédé de la protection, parce que c'est en dehors, ça nous échappe, quoi, c'est ça.
Ah, après, c'est quand même intéressant de se poser un tout petit peu la question de d'où proviennent les choses.
Oui, ça pose surtout cette question-là, quand même, je pense.
Oui,
d'où
voilà.
Viennent les saloperies qu'on a sur la tête?
Exactement.
Peut-être plus.
Oui, c'est vrai. Alors, José Bové, il dit, il a découvert qu'il avait 3 PCB, 11 plastifiants, des pesticides, insecticides, alors qu'il a jamais utilisé sur son exploitation agricole d'insecticides, etc.
Ouais.
Non, alors il ajoute, attendez, parce qu'il suffit qu'il y ait une bombe d'insecticides qui a été passée sur la moquette du Parlement européen. On ne dira jamais assez comment c'est dangereux de siéger, quoi.
Ils n'ont pas pris les poils de moustache. On aurait trouvé d'autres saloperies.
Il y a quelque chose d'écolo en vous, Virginie Efira. Vous êtes conscientisée à ça aussi? Vous faites des gestes réguliers ou pas? Ou c'est venu sur le tard?
Vous pouvez dire non. Parce qu'on sent que vous...
Oui, bah donc c'est
des gens qui me connaissent, qui m'écoutent, s'ils m'entendent. Je fais attention, ce que j'achète, machin, etc. Après, j'ai l'impression que c'est tellement plus global que ça. J'ai toujours l'impression que c'était plus quelque chose de politique et de global que chacun avec sa petite conscience personnelle. Enfin, là, je vais me faire détester.
Mais vous êtes découragé face aux industries, par exemple. C'est ça, l'idée.
Oui, enfin, c'est ça. Alors, oui, bien sûr. Ou alors, allons vivre au sommet de l'Himalaya ou chez André.
Non, il y a plein de déchets au sommet de l'Himalaya.
Ah oui, c'est
la merde en ce
mais voilà, donc à part que c'est une chose beaucoup plus globale, quoi, et on a l'impression que c'est des interdictions à bien plus haute échelle qu'il faudrait pour faire avancer les choses. Et c'est plutôt ce qui se passe dans les grands sommets avec, où il y a des avancées, mais enfin, bon, quand on
donc
voit.
Donc, ça, c'est l'excuse pour vous dédouaner, hein, Virginie.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que vous trouvez que c'est assez un. Ah, pardon,
non. Non, mais je veux pas faire des grandes leçons alors que je prends des grands bains, quoi, voilà.
C'est le sketch de fin d'émission.
Et vous avez vu comment je fais les transitions?
Vous tombez un jour où il y a un gros événement qui est arrivé en Belgique, puisque la NASA a donc trouvé cette planète, et c'est une équipe de Liégeois.
Ça, on en a parlé déjà deux fois, non?
Oui, mais c'est l'objet du sketch.
Ah, oui. Et là, c'était vrai, parce que vous avez dit dans le truc, là, ils ont vraiment parlé comme ça?
Oui, non, c'est tout est véridique. Et le plus rigolo, c'est le groupe de chercheurs, il s'appelle Speculos, pour Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra Cool the Stars.
Mais c'est vrai,
véridique, véridique. Et leur télescope s'appelle Trappist. Donc c'est un peu des rigolos. Comment ça s'est passé? Guillaume Meurice, journaliste à France Inter, se rend à Liège. Charline, Virginie et moi-même, nous sommes l'équipe de chercheurs.
Moi je dis Virginie, c'est vrai. Votre plus bel accent liégeois. Hein. D'accord.
Alors, expliquez-nous, comment avez-vous fait cette découverte?
Ouf, tiquet, un fait.
Oui, ça s'est passé au soir, juste avant de souper.
Oui, parce qu'on venait de faire une petite soquette. Parce qu'on a fait une dure la veille.
Alors, attendez, une soquette, c'est sexuel?
Mais qui parle, j'en suis. Non, pas du tout, hein, que celui-ci, c'est.
On devait démonter notre télescope. Et là, je me dis, est-ce que je jetterai pas un œil une dernière fois?
Exact. Moi, on comprend rien. Il y a son œil sous le télescope, moi, je lui demande, qui est ouvert, allez. Et là, on le voit devenir blanc comme une braquée.
Attendez, c'est pas évident, hein, quand même, parce que vous dites une maquée, donc.
Une maquée, c'est simple, comme une voie lactée, si vous préférez.
D'accord,
je préfère. Il prend beaucoup de vocabulaire, ouais, quand même.
Et là, je vois un point lumineux de la taille d'une chic.
Bon, moi, je me dis qu'il nous raconte des caramissouilles.
Allez, attendez, des caras quoi, c'est-à-dire?
Je pense qu'il en a toutes ses frites dans le même sachet.
Pareil, je me suis dit, c'est pas possible. Il louche. Là, il a un œil qui l'immerte à l'autre.
Mais nenni, hein. Moi, je vois une étoile pas plus grande qu'une noquette de beurre, et autour, cette petite raouette.
Rien qu'à cette idée, moi, je suis déjà toute sauce.
Oui, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a répondu?
On se rend compte que c'est une découverte qui a cassé la baraque.
Attends, oui, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on a pris un bac.
Ah oui, ça je connais, c'est un instrument de mesure.
Mais qui est bien celui-là de Nien, c'est un casier de bière.
Ah, d'accord. Alors attendez, à ce propos, j'ai appris que vous vouliez baptiser les planètes avec des noms de bières trappistes.
Bon, en tout cas, pas contrir.
Mais comment vous allez procéder?
On va toutes les goûter.
Chimie, Orval, Rochefort, Westmalle. En Belgique, on a tellement de bières que des planètes, on peut encore t'en trouver par paquet de 12. Hein.
Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a une idée des caractéristiques physiques de ces planètes?
Oui, l'orbite mesure environ 52 millions de kilomètres.
Au repos.
Mais vous savez, en astrophysique, ce n'est pas la taille de l'orbite qui compte.
Oui, d'accord, je comprends. Alors, on dit qu'il y aurait trois planètes dans une zone habitable. Qu'est-ce que ça indique précisément?
C'est-à-dire qu'on a un bon espoir d'y trouver de l'eau, hein.
C'est bien la première fois qu'on a l'espoir de trouver de l'eau quelque part.
Oui, un jour on trouvera de la gueuse, c'est vraiment la preuve de l'existence de l'intelligence humaine, tu sais.
Alors Alex, vous avez pas menti, hein, sketch mémorable.
Non, elle fait formidablement le liégeois alors qu'elle n'est pas liégeoise, c'est ça qui est formidable.
Ouais, c'est vrai qu'on ne comprend rien, je vais te le réécouter, on ne comprend rien, mais quelle poilade. Eh ben continuons dans la poilade, tiens.
Oui, je vous ai pas menti non plus. La thématique de Frédéric Fromet pour aujourd'hui, c'est l'épée de vache. On l'écoute.
Bien cuicui à tous, ou plutôt meumeu à tous, car on apprend qu'un satellite va être lancé pour observer les émissions de méthane produites par les pets de vaches. Alors pour expliquer ça au pitchoun, attention, je me transforme en Dorothée. Ouh la péteuse, c'est toi la pollueuse, satellite vas-tu te taire? Ouh la péteuse, il n'y a pas que moi sur terre, pour une vache c'est pas clair d'être le bouc émissaire. Ouh la péteuse, la vache n'est pas une chochotte, c'est vrai, elle pète, elle rote, comme l'homme qui se gêne pas pour être encore un plus gros cracra. Ouh la péteuse, c'est toi la pollueuse, ça commence à bien faire les gaz à effet de serre. C'est pas que la charolaise, l'aubrac, la partenaise. Au lieu de nous accuser, pourquoi pas consommer moins de notre bidoche et moins de l'époque cloche. Ouh la péteuse, c'est toi la pollueuse, les hommes ne valent pas mieux. Ouh la péteuse, c'est pas moi la plus dégueu, malgré ma race bovine, moi je roule pas en limousine. Ouh la péteuse, les gros industriels, y a des jeux de mots. Non mais de quoi je m'amène? Sinon, paix vous dégoûte. Nous on va pas dans les soirées prout prout. Ouh la péteuse, c'est toi la pollueuse. Allô allô, monsieur le gros pollueur. Dites-moi, d'où vient cette puanteur? Est-ce la meumeu ou bien le gros tracteur? Est-ce la poule Marguerite ou bien le gros moteur? Dites-moi qui de la vache ou de l'espèce humaine est coupable, la vachette ou l'énergumène? Peut-on dire que le veau ou la génisse sont bien pires que Charal et Lactalis? Ou la péteuse, c'est toi la pôleuse? Et si c'était nous les bœufs, les hommes qui trouvons pas mieux pour voir la pollution sur place que de lancer un satellite qui pollue l'espace? Ou la péteuse, c'est toi la pollueuse, satellite va te faire voir. Ou la péteuse, ou je t'envoie à l'abattoir ton foutu bilan carbone, c'est pas que les bêtes à cornes. Ou la péteuse, la destruction de la planète, est-ce la faute des vaches qui pètent? Soyons clairs, soyons honnêtes, c'est elle qui devrait nous envoyer pêtre. Ou les menteurs, c'est nous les pollueurs.
Frédéric Fromet,
bravo,
merci
pour ces voix de Dorothée. Hein.
C'est la fin de ce troisième florilège d'automne, Alex. Mais c'est pas grave, demain on retrouvera deux autres grands crus.
Parmi ça,
toutes nos émissions, eh bien, nous avons choisi, rappelez-vous, normalement vous avez choisi avec moi.
Ah oui, Céline Renaud.
Ouais, et
Cabu.
Et voilà.
Cabu, ouais.
Allez, à demain.